Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
En août et septembre 2024, la capitale française va donc à nouveau se parer des anneaux olympiques, 100 ans après avoir organisé les Jeux de 1924. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de géopolitique du sport. Pas grand monde non. Vous l'avez, dites-moi, de ces Jeux.
Non, pour des villes ont abandonné en cours de route parce que pour des problèmes internes, parce qu'elles trouvaient que c'était trop cher pour elles, qu'elles n'auraient pas les moyens, et aussi parce que beaucoup ont vu que le dossier de Paris était excellent et qu'il aurait été difficile de le concurrencer. Donc au final, effectivement, il n'y avait plus que deux villes candidates, Los Angeles et Paris. Los Angeles, en fait, a renoncé à 2024 parce qu'elle voyait qu'elle était battue par Paris, et on a trouvé un
Vous pensez vraiment renoncer parce qu'elle était battue?
Pour 2024.
Parce que si c'est si bon que ça, pourquoi attendre 4 ans de plus pour les organiser?
Parce que Los Angeles n'était pas prête en termes de transport, et puis que le dossier de Paris, lui, était vraiment excellent, justement, en termes d'écologie, en termes de transport public, en termes d'exposition. Et donc, Los Angeles, plutôt que d'être battu pour 2024, a trouvé préférable et plus sage de se porter sur 2028, où là, elle était sûre de gagner.
Bon, pour une fois, l'important n'était pas de participer, mais alors, la dernière fois, le dossier de Paris n'était pas suffisant. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant a-t-on un si bon dossier, Pascal Boniface?
Le dossier est meilleur, et surtout, on l'a mieux défendu. En 2012, l'échec est dû à une absence de stratégie d'influence, et également parce que les politiques étaient au premier plan, alors que là c'est le mouvement sportif qui était devant et qui a vraiment une équipe de France avec des politiques en appui. S'il n'y a pas la garantie de l'État, la garantie de la ville, effectivement, les Jeux ne seront pas attribués, mais on a vu d'abord les sportifs, le mouvement sportif, les champions qui se sont mis devant pour vraiment faire porter ce projet.
Bon, je vais vous poser une question difficile, Pascal Boniface. Depuis 1966, on a fait un calcul, le taux de dépassement du coût moyen des JO s'élève à 167%. Pourquoi irait-on faire mentir les statistiques?
Parce que les statistiques reposent sur d'autres chiffres. Il n'y a que deux équipements majeurs à construire pour Paris 2024. La piscine olympique qui sera utile après au département, et le village olympique qui sera retraduit en appartement par la suite. Donc la différence aussi avec le dossier de 2012, c'est qu'il y a beaucoup moins d'équipements à construire. Le Stade de France existe, Roland-Garros existe, il y a déjà Bercy, etc. Et donc la plupart des équipements existent, il n'y a pas vraiment de travaux lourds d'infrastructures structure, à part ces deux équipements majeurs.
Bon, c'est quand même 6 milliards d'euros, hein.
6 milliards 8. Londres a coûté 11 milliards. Et donc, le dossier de Paris, ça sera les premiers Jeux Olympiques après ce qu'on appelle l'agenda 2020. Le CIO s'est rendu compte que les Jeux pharaoniques, ceux dans lesquels les dépenses étaient laissées des éléphants blancs, que cette époque-là était dépassée. Parce que sinon, il y aurait de moins en moins de villes candidates. Et donc, on a contraint les budgets pour que, à l'avenir, d'autres villes avec des budgets plus resserrés puissent candidater. Le véritable objectif de Paris, c'est de faire des jeux à l'économie, mais qui soient en même temps des jeux
économie relative, hein, quand même.
Non, parce que là, les recettes seront supérieures aux dépenses.
Alors, on va en parler tout à l'heure, mais si on reste sur les équipements, puisque à Londres, par exemple, on a dépensé 11 milliards d'euros environ, on a dit qu'un certain nombre des équipements allaient être réutilisés, par exemple, le village olympique, ça semble simple de le réutiliser en logement, en bureau. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart des bureaux sont inoccupés, que tous les logements ne sont pas pourvus à Londres, alors que c'est quand même une ville très chère. Qu'est-ce qui nous prouve qu'à Paris, ça sera différent?
Les logements du village olympique sont pourvus, mais ils ne sont pas pourvus par les classes les plus populaires. Ils sont restés chers et ils ont été pris par des gens qui ont des hauts revenus, donc ça n'est pas tout à fait le côté social. Et donc là, une fois encore, le budget est beaucoup moins important qu'à Londres. Londres avait minoré pour gagner 2012, Londres avait volontairement minoré son budget, et ensuite les véritables coûts étaient arrivés. Je pense que les leçons étaient retenues de cela, et de toute façon, il y aura quand même un examen très pointilleux par les médias, par les politiques, par les opposants au jeu.
Mais après coup, souvent.
Oui,
comme
bien
c'est
sûr.
Le cas.
Bien sûr, effectivement. Mais une fois encore, dans la mesure où le fait d'accélérer les travaux du Grand Paris, d'accélérer la liaison express avec Roissy qui aurait dû se faire, le fait d'insister sur l'accessibilité des transports en commun, des stades pour les Jeux paralympiques, tout ceci est quand même bel et bon et servira par la suite. Et donc, ça va quand même aider à transformer positivement Paris et ses environs.
Et quelles sont les autres infrastructures, Pascal Boniface, qui, selon vous, vont être réutilisées après les JO?
Toutes les structures existent déjà. Donc, en fait,
Sauf cette piscine.
Vous savez, en Seine-Saint-Denis, la moitié des enfants de plus de 11 ans ne savent pas nager. Donc, le fait de mettre une piscine qui servira ensuite au club, aux scolaires, etc., n'est pas mauvais. De même que les 2200 logements du club, du village olympique, aideront également un département dans lequel il y a quand même un manque évident de logements de qualité.
Alors maintenant, parlons des retombées économiques. Là aussi, est-on certain que que cela va nous profiter, puisque par exemple pour Rio et Athènes, alors là les retombées économiques ont été bien moins importantes que prévu.
Oui, mais on peut penser que la France est mieux gérée que la Grèce du début des années 2000 et qu'il y a moins de corruption qu'au Brésil actuellement. Donc en fait, si les Jeux ont coûté au Brésil et à Athènes, c'est vrai, c'est parce que ces pays avaient des problèmes structurels auparavant. La mauvaise gestion, la faillite dans laquelle la Grèce est tombée n'est pas due aux Jeux. Elle est due à une gestion calamiteuse des différents gouvernements pendant des décennies. Et si la corruption existe de façon très forte au Brésil et que du coup elle surélève l'ensemble des coûts, notamment de construction des installations pour les Jeux, ce n'est pas à cause des Jeux. Les Jeux ont été victimes de la corruption, ce ne sont pas les Jeux qui ont amené la corruption au Brésil.
Vous avez prononcé le mot de corruption, il y a un éditorial au vitriol d'Edwy Plenel sur Mediapart. Ceux qui organisent les JO sont dans un machin opaque. Qu'est-ce qui nous prouve que tout est transparent? Là aussi, on peut quand même se poser des questions.
Oui, le CO doit se réformer. Il s'est réformé d'ailleurs. La FIFA doit le faire.
Suffisamment, vous pensez?
Oui, vraiment, Thomas Bach a apporté une nouvelle. On n'est plus aux ères précédentes de l'opacité totale. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs à l'avenir que les votes soient publics. Là, ils l'ont été parce qu'il n'y avait qu'une seule candidature. Mais il y a effectivement des scandales dans le passé. Mais finalement, on voit bien quand même que le CO globalement suit les évolutions du monde, en reconnaissant l'émergence du Brésil il y a 4 ans, en revenant vers la France pour les Jeux. Et donc, effectivement, mais c'est toujours un peu facile de critiquer le monde du sport. Je sais que dans les milieux intellectuels, il y a toujours un peu cette réticence par rapport au sport. Mais finalement...
Nous, on aime bien faire du sport, simplement pour ce qui est des JO et du CIO. Là, le sport est quand même un sport un peu bizarre, parfois.
Non, c'est quand même une grande fête de l'universel. Pour les JO, tous les
pays... Y compris des régimes autoritaires.
Oui, mais ils existent. Ils sont également à l'ONU. On va pas les virer de
l'ONU, etc. Le CIO a été extrêmement conciliant avec certains régimes autoritaires.
C'est une histoire un peu ancienne quand même, les années 30, effectivement.
Ah non, je pense à une histoire beaucoup plus récente, notamment avec la Russie.
Oui, la Russie, la Chine, mais ces pays existent. Une fois encore, on ne peut pas les rayer de la carte. On ne peut pas uniquement faire les Jeux Olympiques dans les pays occidentaux et démocratiques. Qui déciderait d'ailleurs de qui est vraiment démocratique pour recevoir les JO? Donc c'est aussi une reconnaissance de fait que ces régimes existent, mais ils ne sont pas autoritaires parce qu'ils reçoivent les JO. Ils existent et donc les JO qui sont universels vont un peu partout.
Pascal Boniface, le fait d'organiser les JO à une époque quand même où la menace terroriste est importante, vous qui êtes géopoliticien, est-ce bien raisonnable?
Oui, oui. Sinon, on ne fait plus rien. On interdit les concerts, on ferme les terrasses des cafés, on ne va plus au théâtre. C'est justement, au moment où il y a le terrorisme, il faut dire, on vit comme d'habitude, on vit comme avant, les terroristes ne nous font pas peur. On a eu ce débat pour l'Euro 2016. Certains voulaient interdire, ne pas créer des fan zones pour des raisons de sécurité. Elles ont été créées, elles ont été sécurisées. Il n'y a pas eu d'incident. Aucun terroriste. Au Brésil aussi, la facture de sécurité a été très lourde. Pourtant, le Brésil n'est pas troublé par les questions géopolitiques liées au terrorisme, l'État islamique, etc. Il y avait des mesures de sécurité extrêmement importantes à Rio. Et maintenant, dès que vous avez un événement, vous faites un concert à Radio France, vous prenez des mesures de sécurité. Et pourtant, vous faites des concerts.
Pascal Boniface, alors, une dernière question. Donc, vous n'avez pas un bémol dans l'organisation de ces JO?
Il faudra voir vraiment que effectivement le budget soit tenu. Il faudra voir que les entreprises du 93 bénéficient bien des travaux qui seront faits, que la jeunesse du 93 soit associée et qu'on fasse ces JO qui soient vraiment non seulement les jeux du haut de la pyramide, mais également de la base.
Merci beaucoup Pascal Boniface. Géopolitique du sport, c'est le livre que vous avez publié chez Armand Collin.